parler de départ, eh bien, on va parler d'un autre départ. Et vous avez loué le Seigneur, vous avez adoré, et peut-être que vous ne savez pas, ou je pense que vous le savez, mais qu'il est bon de se rappeler que si c'est possible, c'est à cause d'un départ. Merci beaucoup, Denis. J'aimerais qu'on puisse lire dans la Bible, dans la parole de Dieu, Jean 14, juste avant le passage que tu as donné à Amélie, Michel. Jean 14, verset 15, nous allons lire jusqu'au verset 31. Un autre départ, un autre avantage. J'avais oublié qu'on avait une grande église, mais une si petite chaire. Jean 14, verset 15 à 31, un autre départ. Si vous m'aimiez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi je lui témoignerai mon amour, et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera et nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas ma parole, mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croiriez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons ici. Merci Père éternel pour ta parole. Nous prions que celle-ci puisse toucher nos cœurs et nous amener à une décision, à des décisions pour toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous revoilà dans l'évangile de Jean. J'étais parti agacé d'avoir été pendant X années confronté à l'évangile de Jean et je reviens à l'évangile de Jean. Je ne sais pas, on n'arrive pas à sortir des cadres dans lesquels on a pataugé. Alors, Jean est un auteur vraiment très étonnant. Toute l'histoire qu'il raconte peut être quasiment regroupée en quelques jours. On est à peu près sûr qu'il a écrit à des personnes qui avaient déjà lu les autres évangiles. C'est d'ailleurs pour cela qu'il veut montrer une autre facette de Jésus. Nous sommes à la fin de la vie de Jésus et il est avec ses disciples, ceux avec qui il a passé la plus grande partie de sa vie. En tant que maître, rabbi, tel un prof de théologie à la manière pharisienne, il a enseigné ses disciples et son enseignement arrive à sa fin. En ce sens que sa vie arrive à son terme. Je vous invite à rentrer avec moi dans la pièce avec les disciples et voir quelle est l'atmosphère qui y règne. 14:1, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. » 14, verset 27, « C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte. » On pourrait dire que ces deux propos enferment la pièce dans laquelle les disciples se trouvent. La crainte, la peur, Jésus leur a déjà annoncé son départ au début du chapitre 14. Ils ne comprennent pas. Comment, si toute leur conception sur Dieu, sur sa venue, sur son royaume était flouée, Jésus n'est pas en train d'inaugurer un royaume terrestre, magistral, où celui-ci aurait pu avoir une écrasante victoire, comme certains textes de l'Ancien Testament auraient pu le laisser à penser. Non, il parle de son départ pour aller vers son Père. Jésus vient de leur dire, juste avant notre passage, qu'il connaissait le chemin. Pourtant, les disciples ne voient pas le chemin, de quel chemin il s'agit. Même s'il leur dit qu'il est le chemin vers le Père, eux préfèrent connaître le Père directement. Mais celui-ci leur dit que ce n'est que par lui. Jésus dit aux disciples, nous ne comprenons pas ce que tu nous dis. Tu nous annonces ton départ et cela nous inquiète grave. Sans toi, nous ne savons pas comment nous allons pouvoir continuer ce que nous avions commencé avec toi. Concentrés sur leurs préoccupations, leurs craintes, leurs inquiétudes, ils ne voient plus qu'elles. Jésus est encore parmi eux. Tout semble déjà comme s'il n'était plus là. Dans ce passage à vide des disciples, Jésus comprend et compatit et leur explique pourquoi son départ est inéluctable et indispensable. À la manière des discours d'adieu de certains personnages de l'Ancien Testament, Jésus fait ses adieux, mais d'une manière totalement différente à tous les autres. En effet, son départ va inaugurer une arrivée. Les disciples se sentaient complètement incapables de vivre et enseigner le message de leur maître. Le Saint-Esprit, celui qui viendra quand Jésus sera parti, leur donnera une connaissance profonde de Dieu, qui pourra prendre la forme, la visibilité d'un amour comme le maître a eu. Mais sans doute qu'il y ait pour les disciples une lueur d'espoir, Jésus leur promet son départ qui inaugurera la venue de sa paix, une paix que le monde ne connaît pas. Le Saint-Esprit, le remplaçant de Jésus. Pour comprendre le sentiment des disciples, j'aimerais pour illustrer cela un exemple de notre vie quotidienne. Notre vie est marquée par un environnement où règne la sécurité. Nous n'aimons pas beaucoup les changements. Nous avons une certaine résistance au changement. Même si parfois le changement peut s'avérer bénéfique, il nous apparaît souvent plus difficile et nous préférons maintenir le statu quo dans notre travail, dans une certaine routine de vie de famille ou dans l'église. Le statu quo, c'est ce qui nous sécurise. Une petite expression exprime bien la situation. Même si ce n'est pas parfait, au moins nous savons ce que nous avons. Le sentiment des disciples était un peu proche, similaire. Pour eux, Jésus-Christ était là. Cette situation était confortable, même si de temps en temps, il leur mettait une petite gifle. Pour leur comportement, il s'avérait que Jésus était avec eux et cela leur faisait du bien. L'idée d'un changement les troublait. L'idée que le maître puisse partir leur donnait un sentiment d'incertitude qu'ils n'appréciaient guère et qui faisait naître en eux un sentiment de crainte, de peur. Mais Jésus ne se concentre pas sur la satisfaction immédiate de ses disciples. Il regarde au futur et à ce qu'il est le mieux pour eux. Le disciple et nous, souvent, nous regardons juste devant nous, mais Dieu a les regards quelques années devant. Il a de l'avance sur nous. Son départ est nécessaire, primordial. Pour autant, celui-ci ne laissera pas le vide derrière lui, bien au contraire. Jésus leur annonce la venue d'un autre maître, d'un autre comme lui, Et c'est le Saint-Esprit, verset 15 du chapitre 14. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Quand Jésus était avec eux, il était leur défenseur, celui qui les représentait, qui leur venait en aide quand une situation difficile arrivait. Sauf que sa présence prenait fin. Jésus envoie une présence qui n'aura pas de fin. On passe d'une présence temporelle à une présence éternelle. Jésus essaie de leur montrer comme un avant-goût de ce qui va se passer. Aujourd'hui, je suis à côté de vous, je vous enseigne la vérité, mais demain, la vérité sera directement transmise par une autre personne qui procédera de moi, que je vous enverrai et qui œuvrera en vous. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il aura cette caractéristique de témoigner à la vérité. Vous pourriez me dire, Samuel, la vérité, bon, c'est un peu flou aujourd'hui. Hein ? Tout le monde a un peu sa vérité. Pourtant, Jésus a dit juste avant que la vérité, c'était une personne. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » L'Esprit de vérité témoigne donc de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Il fera des disciples, des petits Christ. Mais petit point intermédiaire, verset 17, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. L'Esprit de Dieu qui procède de Jésus opère la même distinction que Jésus a opérée lors de sa venue sur la terre. Rappelez-vous en Jean 1, dans son introduction, au chapitre 1, où il nous montre que la parole qui s'est faite chair, qui s'est faite humaine, que Jean présente comme être Jésus, est venue dans le monde et que le monde ne l'a pas reconnue. Cette parole a opéré un tri entre ceux qui ne l'ont pas accueilli, verset chapitre 1, verset 11, et ceux qui l'ont accueilli, chapitre 1, verset 12, elle leur a accordé le pouvoir de devenir ses enfants. Jésus, qui a suscité le temps de sa vie chez certains la haine et chez d'autres la foi, aujourd'hui c'est le rôle de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va rendre accessible à l'humanité le privilège accordé de devenir enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui rend accessible à l'humanité le privilège d'être accordé ses enfants. Mais le monde, par sa rébellion, est en totale incapacité à le reconnaître, et cela pour au moins deux raisons. Parce qu'il ne le voit pas, nous dit le texte, et parce qu'il n'a eu aucune connaissance de lui. Mais comment comprendre l'incapacité du monde à le voir ? Le monde se méfie de ce qu'il ne peut voir, car il est profondément matérialiste. La dimension de la foi lui semble impossible. Le monde n'a d'ailleurs aucune existence propre. Le monde représente l'ensemble des êtres humains. Et on pourrait dire que, comme Thomas, ils disent, Jean chapitre 20, verset 25, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Même si l'homme veut se croire capable de vivre sans la foi, il est né pour croire. Il remplace la foi destinée à un Dieu, son créateur, par la foi dans un matérialisme visible qui croit pouvoir le combler. Celui-ci ne lui donne qu'une satisfaction éphémère, contrairement à l'esprit. Même si Jésus essaie de les rassurer, leur angoisse continue de grandir. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, leur maître. Quand celui-ci sera parti, ils seront seuls. Mais Jésus connaît trop bien le cœur de ses disciples pour ne pas mettre des mots sur la souffrance, sur leur inquiétude qui est vécue et intériorisée. Je vous invite à lire avec moi verset 18. Et il leur dit, « Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. » Jésus sait qu'en laissant ses disciples, il les laissera sans rien comme orphelins. Comme celui qui perd ses parents est livré à lui-même dans le désarroi le plus complet. Nos contemporains athées, quand lorsqu'ils voient partir un être proche et qu'il meurt notamment, imaginent sa présence dans le ciel ou dans les étoiles. L'absence est tellement traumatisante qu'elle est compensée par l'imagination d'une présence. Je me rappelle cette dame qui, après avoir perdu son fils dans un accident de voiture, ne pouvait imaginer la vie sans lui. Elle soupirait donc à entretenir avec lui non seulement l'idée de sa présence mais dans les étoiles, mais aussi l'espoir de pouvoir discuter avec lui. Mais Jésus n'a jamais prévu de les laisser seuls, sans force ou dans une imagination douteuse et ésotérique. Non, bien au contraire, même s'il doit partir, il va revenir. Amélie nous a dit qu'elle allait revenir. Mais Jésus va revenir. Jésus a dit qu'il allait revenir. Jésus compense le sentiment d'abandon par la venue du Saint-Esprit. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'humanité vit un abandon qu'il essaie de compenser. Il est déconnecté de la présence de Dieu. Or, cette présence est constitutive de sa propre identité. Elle souffre, donc le manque. Le sentiment d'abandon vécu par les disciples est le sentiment d'abandon que vivent aujourd'hui beaucoup de personnes dans le monde. Sentiment présent ou refoulé, il est là. Or, Jésus, loin d'ignorer, veut combler, veut renouer la présence de Dieu au sein de l'humanité. Et cela doit passer par sa mort, par sa résurrection et par la venue du Saint-Esprit, qui va donner à l'homme la présence de Dieu en lui. Ce sentiment d'abandon est donc remplacé par une expérience de la présence de Dieu en nous, et cela par le Saint-Esprit. Je discutais un jour, il n'y a pas longtemps, avec des très bons amis à nous qui vont dans une église catholique. J'apprécie beaucoup ce couple et le gars qui est prof à Mathsup me dit, au détour d'une discussion, « Samuel, je veux bien croire que Dieu nous aime comme un ami. Pourtant, quand je vais à l'église, il n'est pas là pour me prendre dans ses bras. Quand je parle, il n'est pas là pour me répondre. Tu sais, Samuel, je veux bien croire, mais j'y arrive pas. » C'était une véritable souffrance pour sa femme qui n'arrivait pas à le forcer à aller à l'église. Une souffrance pour lui qui n'arrivait pas à expérimenter Dieu. Mais je lui ai fait part justement de ce que Jésus est en train de promettre à ses disciples. La seule chose, la seule personne qui peut combler le sentiment de vide, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'est pas en nous, n'est pas en vous, et que vous n'avez pas fait l'expérience de sa présence, vous êtes complètement étranger à la vie de Dieu. C'est Paul qui dit ça en Romains. Le monde ne pourra jamais vous faire toucher du doigt la présence de Dieu. Cette connaissance expérientielle n'est pas une connaissance mystique qui pourrait se faire via je ne sais quel procédé. Elle ne se vit que dans l'abandon de sa vie entre les mains de Jésus-Christ et accepter notre état devant Dieu, à savoir notre état de pécheur, notre incapacité à aller vers lui et notre besoin de secours. Pour qu'il fasse en nous sa demeure et nous donne la capacité de croire en lui. Si vous lui demandez sincèrement et de tout votre cœur, Dieu vous accordera son esprit. C'est alors que vous découvrirez ce que Jésus annonce en 14, verset 23. Le truc de fou que Jésus annonce, à savoir que nous viendrons tous deux en lui et nous établirons notre demeure en lui. Jude ne comprenait pas comment Jésus pouvait se révéler seulement sans que le monde puisse le voir. Et pour eux, cela devait passer forcément par un écrasement des Romains, cette puissance qui les opprimait. Or, Jésus annonce une autre venue, une venue dans la vie des croyants, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Les croyants sont donc le lieu où Dieu se rend présent par l'Esprit. La Trinité vient faire sa demeure dans le croyant. Quand l'humanité crie à l'absence de Dieu, Dieu répond qu'il veut faire sa demeure au sein de l'homme par son esprit. Au point levé d'une humanité qui rejette Dieu, Dieu le Fils vient dans l'humanité mourir à notre place pour que nos péchés, nos fautes commises devant lui soient pardonnés et que Dieu, le Fils, le Père et le Saint-Esprit fassent leur demeure en lui. Non, Dieu ne veut pas nous laisser seuls devant notre incapacité à vivre la vie qui pète des flammes. Dieu veut nous donner sa vie par son esprit en nous. Le Saint-Esprit est donc le moyen de rendre présent l'absent. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi capable de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et nous rendre capables d'aimer le Fils en faisant de nous des imitateurs de Christ. Il est capable de nous donner ce que le monde ne pourra jamais nous donner, à savoir la paix. Le Saint-Esprit donnera aux disciples une compréhension plus grande de qui est Jésus. On peut le voir au verset 17, car il est l'Esprit de vérité. Verset 20, vous connaîtrez. Verset 26, il enseignera tout ce que je vous ai dit de moi-même. Il faut comprendre la situation. Les disciples ont vécu 3 ans auprès de leur maître, qui leur a enseigné à plein de choses sur Dieu, sur lui, sur son œuvre. Pourtant, ils sont devant un fait terrible à leurs yeux, c'est toujours son départ. Nous t'avons quitté, mais maintenant, que va-t-il rester de toi, de ton enseignement, si tu n'installes pas de manière officielle ce royaume ? Comment allons-nous pouvoir nous rappeler de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as fait ? Et l'enjeu est important. Comment les paroles de Jésus allaient être accessibles à tout le monde entier et à nous aujourd'hui ? Jésus l'explique comment le Saint-Esprit va les rendre capables, verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit de moi-même. Moi-même. Les disciples sont assurés en la personne du Saint-Esprit d'avoir Jésus à leur côté. Le Saint-Esprit leur enseignera toutes choses et leur donnera la capacité de faire de tout ce que Jésus a dit, de se rappeler de tout ce que Jésus leur a dit. Les apôtres, les disciples sont donc couverts d'un mandat unique dans l'histoire du salut, celui d'être les témoins de Jésus, le Fils unique de Dieu, les témoins oculaires de la parole qui a été faite chair, la gloire qui est venue sur la terre. Leur mission est assurée de réussite par la présence du Saint-Esprit. Pour les disciples, la conscience de transmettre les paroles, l'enseignement du Christ est donc claire. Ils doivent retransmettre aux générations futures le témoignage vécu en la personne du Christ, de Dieu fait homme, et cela s'est réalisé au moyen des Écritures que nous avons en notre possession aujourd'hui. La Bible que nous avons en notre possession est sans erreur et parfaite parce qu'elle est le produit des témoins oculaires qui a été gardé totalement de toute erreur par le Saint-Esprit, parole inspirée par Dieu. Vous pourrez me dire, Samuel, c'est bien beau ce que tu me dis parce que tu es en fac de théo et que tu ne voudrais pas dénigrer la Bible, sinon tu scierais la branche sur laquelle tu es assis. C'est vrai. Mais je vous propose de vous raconter une partie du témoignage de Lee Strobel, diplômé de droit à l'une des facultés les plus prestigieuses des USA. Son témoignage est un parmi tant d'autres, mais il était grand journaliste au Chicago Tribune dans les enquêtes criminelles. C'était un athée, un sceptique, comme il en existe peu. Un jour, il a décidé de mener une enquête sur la véracité du christianisme. Pour cela, il suffisait de détruire le socle du christianisme, il suffisait de démontrer que la Bible était bourrée d'erreurs et ça serait gagné. Il a entamé une véritable investigation sur le sujet, il s'est posé à peu près 15 questions clés sur la véracité du texte biblique. Eh bien, il a été obligé d'abdiquer devant l'étonnante robustesse des écrits du Nouveau Testament. Il s'est converti et maintenant est l'un des plus grands défenseurs de la foi. Si vous avez des doutes sur la fiabilité des sources du Nouveau Testament, osez les mettre à l'épreuve, comme l'a fait Lee Strobel. Et vous serez surpris qu'il n'existe quasiment aucune histoire qui ait autant de fiabilité que le Nouveau Testament. Ravi Zacharias, en parcourant les grandes facs du monde, a un jour répondu à un étudiant qui lui disait « Ce que tous les agnostiques pensent sur la foi en Dieu, nous n'avons pas assez de preuves pour croire. » Et lui de répondre « Le problème avec les écrits du Nouveau Testament n'est pas un problème de preuves, mais de leur suppression. Vous aurez toujours la possibilité de refuser les preuves qui s'imposent à vous. Mais ceux qui cherchent Dieu, de tout leur cœur, Dieu se laissera trouver par eux. » Jésus nous l'a promis, les disciples seront enseignés par le Saint-Esprit. C'est la certitude que notre foi ne repose pas sur des sornettes, mais bien au contraire, est attestée du meilleur sceau qui puisse exister, celui de Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'union du Fils de Dieu et du Père dans le croyant produira ce que le monde ne peut pas lui-même produire. C'est l'amour et la paix. Relevons rapidement quelques allusions à propos de l'amour dans notre texte. Si vous m'aimez, verset 15, vous suivrez mes enseignements. Verset 21, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Verset 23. Jésus lui répond : « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera et nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. En cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. » Notre texte fait écho à Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns les autres. » La marque par excellence du disciple qui suit le maître Jésus-Christ, c'est l'amour. Mais comment est-il possible d'aimer Dieu? Et c'est à ça que répond le texte. Là, Jésus explicite comment les disciples vont pouvoir l'aimer. Pour définir l'amour du croyant vers Dieu, il associe bizarrement l'amour de Dieu à un commandement à aimer l'autre. Aimer Dieu, un commandement à aimer l'autre. Mais comment vivre le commandement de l'amour? Il semble une nouvelle fois que Jésus nous montre le chemin. L'amour de Christ pour l'humanité, même s'il s'intègre totalement dans l'obéissance au Père, relève d'une totale et parfaite liberté. Il ne vit pas sous une quelconque contrainte, mais il se vit dans une joie profonde, un plaisir profond du Christ qui prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Nous sommes invités à la suite de Christ à aimer. La volonté de Dieu pour nous est d'aimer, et en aimant, nous serons aimés en retour. Or, vivre cet amour n'est possible que dans la mesure où l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est donc la source qui va changer notre être le plus profond pour nous amener à vivre cet amour. L'amour de l'autre est donc à vivre comme un don de Jésus qui travaille au sein de notre personnalité. Pour autant, cet amour doit puiser sa joie, non dans le commandement, mais le plaisir de Dieu, comme joie de faire la volonté du Père qui nous aime. Ainsi, l'obéissance au commandement d'aimer prend sa source dans la joie d'imiter le Maître, dans la joie de lui faire plaisir et dans la joie de se savoir aimer en retour. Pourtant, il serait dangereux de croire que nous devrions vivre l'amour autant que cela dépend de nos sentiments, de nos humeurs ou de nos limitations. Non, l'amour selon Dieu est un amour qui se vit dans le rapport aux autres, dans l'obéissance. Cet amour pour Dieu ne ressemble à rien d'une recherche d'un amour mystique avec Dieu, centré sur une contemplation exaltante que nous pourrions rechercher dans des chants, que nous pourrions chanter pendant un temps du culte, qui nous ferait monter dans la présence de Dieu. Non, l'amour pour Dieu n'est pas un sentiment qui s'acquiert par une série de chants. Mais ce n'est pas non plus dans une recherche d'actes à accomplir dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Un amour donnant-donnant basé sur des bénéfices que l'on pourrait escompter. Non, l'amour ce n'est pas quand ça me chante ou quand j'ai avis. L'amour pour Dieu, c'est une attitude que je suis invité à vivre. Comme une attitude bienveillante envers ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire un sentiment de bonté qui est une sorte de reflet ou de reproduction de la bienveillance que Dieu a envers nous. C'est l'ouverture à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent. C'est le crédit que j'accorde à l'autre, contraire de l'indifférence, où l'autre n'existe pas, contraire, différent du soupçon, où je vois le mal avant même de savoir qu'il est là, du jugement, où je condamne. C'est le refus de cataloguer l'autre. Il s'agit de lui accorder un préjugé favorable. Cette bienveillance n'exclut pas la prudence ou la lucidité, mais elle évite les perversions de l'amour qui se cachent parfois des dire la vérité, mais il faut le dire avec amour. Dans la démarche de bienveillance, on fait a priori confiance à l'autre. Mais la sagesse implique une certaine lucidité. L'autre est souvent difficile à accueillir, car il peut me remettre en cause. Dans un amour partagé, l'autre peut faire ma joie et peut me faire grandir, mais il peut aussi me remettre en question par le regard qu'il porte sur moi. L'amour de l'autre est souvent un combat. Il faut donc se garder de rester enfermé dans ce que l'autre peut susciter en moi de répulsion ou d'agressivité. Il faut se rappeler que dans toute relation, Dieu est aussi présent. Si je peux ne pas avoir peur, c'est parce que Dieu est présent. nous pouvons faire confiance à Dieu dans la relation à l'autre. On n'a pas le droit de désespérer de Dieu sur quelqu'un. Au fond, très souvent, c'est de notre foi que va dépendre de notre attitude vis-à-vis de l'autre. La réalité, c'est que nous nous comportons comme si Dieu n'était pas là. La bienveillance présuppose du courage qui vient d'une confiance fondamentale en Dieu. Un autre fait fondamental associé au départ de Jésus est l'envoi par lui, avec le Saint-Esprit, de la paix que celui-ci vient nous donner. Verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez pas aucune crainte en votre cœur. » Nous sommes déjà bien avancés, mais ce texte, c'est vraiment de la dynamite. Une dynamite pour les personnes athées à la recherche d'une paix qu'ils ne trouvent pas dans le monde. Une dynamite pour la personne chrétienne à la recherche d'un comportement, un bon comportement dans un monde pécheur. La paix que Jésus promet à ses disciples est pour tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. La paix promise est premièrement la paix avec notre Créateur, avec celui à qui les hommes ont dit qu'ils voulaient vivre leur propre vie. Or, l'homme avait avec son Créateur une alliance. Celle-ci emportait un cadre juridique et le péché, la faute commise devant Dieu, est venu rompre le cadre de l'alliance que Dieu avait fait avec l'homme, Adam et Ève. Nous sommes sous le poids d'une condamnation que nos actes encourent. Cette condamnation fait de nous des coupables. Cette culpabilité n'est pas le fruit de la pensée chrétienne ou, selon Freud, d'un mythe de la horde primitive. Je vous invite à aller voir sur Internet. Non, la culpabilité fait partie de notre nature humaine en rébellion contre Dieu. Nous sommes donc en guerre contre Dieu. Tous les hommes sont en guerre contre Dieu. Et devant cette guerre ouverte et déclarée, il n'y a pas de zone neutre ou d'espace de neutralité qui nous pourrait nous permettre d'échapper à la guerre. Or, à cela, Jésus est venu nous dire qu'il fallait qu'il parte. C'est-à-dire qu'il meure, qu'il endosse sur lui à la croix la punition que méritaient nos actes, notre rébellion et le péché. À notre place, afin que la justice de Dieu soit satisfaite et que nous puissions obtenir de l'amour parfait qui va jusqu'au bout, le pardon et la paix avec Dieu. Jésus, en partant, en mourant pour l'humanité tout entière, nous offre la paix avec Dieu. Nous offre la justification sur une attitude où Dieu nous déclare juste par son Fils. Et le pardon. Il nous offre la paix avec Dieu. Si vous n'avez pas demandé à Dieu de vous pardonner pour vos fautes commises devant lui, c'est avec certitude aujourd'hui le moment de le faire. Soit maintenant, soit chez vous, car nous ne savons pas ce que demain sera fait. Pour ceux qui sont chrétiens, la paix que Jésus nous a offerte est une nouvelle perspective. Une perspective où la foi en lui donne une couleur à toute notre vie. J'aimerais vous raconter le témoignage d'un frère, un vieux frère, très vieux, mais qui m'a beaucoup touché il y a une semaine. Je lui ai appelé Antoine parce que je ne me rappelais plus son prénom. Donc, c'était le seul chrétien de la bande dans son église, dans son entreprise. Il était responsable commercial. Il était dans une grande société et il court le bruit que depuis un moment, il serait sur le point d'être licencié par un nouvel arrivant. Son chef, Marcel, j'ai aussi changé le nom, vient de le convoquer dans son bureau. Il veut licencier Jacques. Ça, c'est le seul nom qui est valable. Qui fait partie de l'équipe commerciale d'Antoine. Or, Jacques est l'un des meilleurs éléments d'Antoine. Alors, et sachant qu'Antoine n'acceptera pas comme cela, son chef lui indique, Marcel, qu'il se souviendra de son attitude dans le futur. C'est-à-dire, il se souviendra d'avoir fait tout, mis en œuvre pour licencier Jacques, qui, même s'il est très bien, ne convient plus à Marcel. Antoine repart dans son bureau. Il sait très bien que s'il doit obéir à son chef, cela lui obligera à mentir et à monter un dossier injuste contre lui. Pourtant, s'il n'obéit pas, peut-être qu'il y aura des conséquences. Et c'est une situation difficile par laquelle il passe. Il sait que s'il licencie Jacques, il sera obligé de renier en partie ses convictions. Lors de ce moment, il se souvient que cette situation n'est pas tout à fait entre ses mains. Comme s'il était celui dont tout dépendait. mais entre les mains de son Dieu, dans lequel il a placé sa confiance. Si Dieu désire qu'il soit licencié, c'est peut-être le moment. De toute manière, Favi est gardé en Dieu. Et quoi qu'il se passe, Dieu est aux commandes et le meilleur est en perspective. Il refuse donc de céder au chantage. La fin aurait pu être très triste, licenciement. Ce n'a pas été cette fois le cas, mais cela aurait pu. Mais Antoine est maintenu dans son poste, il obtiendra une promotion quelques mois après, de manière très étonnante. Antoine nous racontait qu'il avait eu l'assurance d'avoir une paix vécue dans la confiance d'un Dieu qui est au contrôle, non pas seulement des grandes décisions qui régissent le monde, mais qui dirige tous les moindres détails de nos vies. Cette confiance est celle qui promet à ses disciples. Vous pouvez être sûr que mon esprit, que par mon esprit, vous aurez la paix de vivre une vie pour moi dans un monde hostile et rebelle à ma volonté. Cette paix profonde qui trouve sa source en Dieu nous donne la confiance de faire sa volonté, quoi qu'il en coûte. De la crainte du départ de Jésus, les disciples sont invités à regarder en avant. En avant, Jésus leur indique que son départ ne les laissera pas seuls. Au contraire, son départ inaugure la venue d'un autre qui remplacera la présence physique de Jésus par sa venue en nous. Le Saint-Esprit sera notre défenseur, celui qui enseignera les disciples dans toute la vérité, qui leur donnera le pouvoir de retranscrire parfaitement l'enseignement de Jésus par écrit. Mais ce n'est pas tout, ce Saint-Esprit nous donnera de pouvoir aimer Dieu et être aimé de lui, d'avoir la paix avec lui et dans notre vie, deux choses que le monde ne peut donner. Nous sommes invités à rentrer dans les choses bonnes que Jésus nous a acquises et qu'il souhaite nous donner aujourd'hui par son esprit. Toute notre vie dépend de certains choix. Comme l'énonce la théorie du chaos, un battement d'ailes à Tokyo peut avoir des influences et faire pleuvoir à New York. De la même manière, un choix aujourd'hui, la foi que nous pourrions accorder à Dieu, pourrait peut-être donner à la seule vie que nous ayons à vivre un goût et une saveur que rien ni personne ne pourra jamais nous promettre. C'est à nous de décider, c'est à nous de prendre possession de cette paix par la foi, à nous de vivre l'obéissance à Dieu comme un plaisir susceptible de nous donner une attitude remplie d'un profond amour pour l'autre. C'est à nous de décider, de choisir. Je vais prier. Merci.